du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Tamani. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommaire de cette édition. Le gouvernement malien met en garde le Niger de ne pas s'immiscer dans ses affaires. Une déclaration faite suite aux menaces proférées par le ministre des Affaires étrangères nigérien en cas de prolongation de la transition. 4 militaires tués, c'est le bilan provisoire d'une attaque contre un véhicule des forces armées maliennes sur l'axe Bankas-Sévaré. Ce drame s'est produit après l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de leur véhicule. Après la publication des résultats du DIF, des pédagogues s'inquiètent du cursus scolaire des élèves au Mali. Ils estiment que ce résultat ne reflète pas le niveau des élèves et alertent contre une manipulation politique. Voilà pour l'essentiel des titres. Le développement dans un instant avec Assetou Kanté. Mamadou Ouattara est à la technique. Va-t-on vers une nouvelle brouille entre le Mali et le Niger? Les autorités maliennes ont condamné avec fermeté les propos du ministre des Affaires étrangères du Niger dans un entretien accordé à un média international la semaine dernière. Celui-ci a proféré des menaces contre le Mali en cas de prolongation de la transition ou d'éventuels accords entre le pays et la société russe Wagner. Le gouvernement du Mali a appelé son voisin du Sahel au respect du statut souverain du pays. Les détails avec Adama Amadou Aïdara.
Dans un communiqué publié hier dimanche, le gouvernement du Mali s'interroge sur les motivations réelles de cette sortie du ministère des Affaires étrangères du Niger, tout comme celle du président Mohamed Bazoum en juillet dernier. Aussi dans le document, le gouvernement du Mali se demande à quel titre le ministre nigérien s'érige en porte-parole de l'organisation alors que son pays n'assure pas la présidence de la CDAO. Et mieux encore, les décisions et recommandations issues du sommet sont énoncées dans un communiqué final. Selon les autorités maliennes, aucun pays ne fera des choix à sa place et encore moins de décider quel partenaire il doit solliciter ou pas. Enfin, le gouvernement du Mali demande à prioriser la sécurité des populations du Sahel au lieu de s'apesantir sur des rumeurs, dit-il.
Cette tension pourrait-elle se répercuter sur la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans le Sahel? Le politologue Bassirou Ben Doumbia pense que non. Il affirme que les États doivent éviter de s'exprimer sur des questions de souveraineté d'un autre État, même si, dit-il, le droit de regard permet aux organisations de la sous-région de donner leur avis sur une question d'intérêt régional. Bassirou Ben Doumbia est joint au téléphone par Adama Amadou Aïdara.
Chaque État est libre de déterminer la politique qui lui semble meilleure ou appropriée pour conduire l'action gouvernementale. Alors, si dans cette dynamique, cette politique peut toucher à la sensibilité de certains États, il est évident que ces États-là s'expriment, mais il ne faudrait pas que dans l'exercice de ce droit à expression, qu'on puisse aussi toucher à la souveraineté de l'État concerné ou auquel cas on pourrait se retrouver dans une situation d'ingérence qui peut aussi fragiliser les relations diplomatiques entre ces deux États au Sahel. Mais cela ne peut pas mettre en cause le processus de reconstruction, le processus de la lutte anti-djihadiste dans lequel les autorités se sont lancées. Mais elles peuvent, dans la mesure du possible, aller à des mesures de conciliation puisque les intérêts géostratégiques et géopolitiques sont parfois liés.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 18h passé de 3 minutes, je vous l'annonçais dans le titre. 4 militaires maliens ont été tués ce matin suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de leur véhicule sur l'axe Bankas-Sévaré. Selon des sources militaires, l'incident s'est produit entre le pont Parou et Sangovia. Les recherches sont en cours dans le secteur, indiquent les mêmes sources. La France ne quittera pas le Mali. La déclaration est de Florence Parly, ministre des armées françaises en visite dans le pays depuis ce matin. Elle a également annoncé que son pays va renforcer son dispositif sécuritaire dans la zone dite des trois frontières. Ce déplacement intervient dans un contexte où des tensions sévissent entre la France et le Mali. Près de 70%, c'est le taux d'admission au diplôme d'études fondamentales d'EF de cette année. Selon des pédagogues, c'est l'un des meilleurs taux au Mali depuis 2008. Cependant, ils estiment que ce taux ne reflète pas la réalité. Ainsi, pour Mourike Dambélé, pédagogue, cette situation pourrait être un handicap pour les élèves à l'avenir s'ils ne sont pas suivis. Je vous propose de l'écouter.
Il y a eu beaucoup
beaucoup de difficultés dans ces dernières années qui font que finalement on ne peut pas espérer avoir un niveau satisfaisant chez les élèves. Il faut accompagner ces élèves-là. Cet accompagnement-là est un accompagnement des enseignants, de l'administration et des parents. Il faut une synergie de situation pour qu'on puisse espérer avoir un niveau un peu satisfaisant chez les élèves. C'est pas le taux de l'admission qui est important. C'est qu'on sait que beaucoup de ces enfants-là auront des difficultés au lycée. Le système du DEF au Mali est suffisamment politisé. Le baccalauréat, c'est le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours un système de repêchage dont le seuil est défini par l'autorité politique.
Autre sujet, Habib Sylla a été réélu pour un troisième mandat à la tête du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. C'était à l'issue de la 7e conférence ordinaire de l'organisation. Selon les résultats officiels, il a obtenu 60 voix contre 3 pour son challenger Issiaka Traoré. Mais ce dernier conteste ses résultats. Amsetou Touré nous fait le point.
Le président légitime, c'est moi. C'est ainsi que s'exprime Issiaka Traoré, président du conseil de base des Maliens de Mauritanie, déclaré perdant dans les résultats officiels. Selon lui, la candidature de Habib Sylla est illégale.
Habib n'avait pas le droit de se représenter parce que ce n'est pas un Malien de l'extérieur, c'est un Malien de l'intérieur. Dans nos statuts et règlements intérieurs, c'est écrit noir sur blanc. Tout Malien de l'extérieur qui fait 6 mois sans son pays perd son statut de Malien de l'extérieur. Habib, il est à Bamako. Ici, ça fait 2 ans et 6 mois, il ne peut pas se réclamer malien de l'extérieur. C'est un malien de l'intérieur qui ne devrait pas déposer sa candidature.
Les membres du bureau élu affirment avoir la conscience tranquille quant au déroulement des votes. Mahamadou Camara, secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur, membre de la commission d'organisation.
Certains pays sont partis. Il y avait 52 pays sur 77, ceux qui dépassent largement la moitié qui est requise pour que la délibération se fasse correctement. Nous avons connu un huissier pour constater tout ça. Alors donc, les 63 ont voté. Le président Habib Sylla a été investi. Nous avons fait exactement ce que nos statuts demandent. Donc maintenant, ce que se plaît, les élections, il y a toujours des contestations.
Issiaka Traoré annonce qu'il va saisir la justice pour trancher.
Des symboles de l'État non respectés, des autorités défiées, des décisions de l'État contestées, l'incivisme devient de plus en plus grandissant au Mali. Pourtant, après l'indépendance, le citoyen malien était éduqué dans le sens d'un respect scrupuleux de l'État. Ses représentants et symboles rappellent des historiens. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette défiance fréquente chez le citoyen? Que faut-il faire pour changer les choses? Les éléments de réponse dans ce reportage de Koumafin Keïta réalisé dans le cadre de notre série de productions sur le 22 septembre.
De la rive gauche à la rive droite de Bamako, les citoyens expliquent sans détour qu'ils sont déçus du comportement de certaines autorités du pays. Ce sont ces gestes, faits et décisions corrompues ou illégales qui les poussent à la désobéissance, explique-t-il.
Quand il y a un changement de régime, c'est toujours la même chose.
La société, économiquement, quand elle est affectée, là, socialement elle est affectée, politiquement elle est affectée. C'est ce que nous vivons.
Pourtant, le commissaire permanent du Bureau fédéral des pionniers du Mali situe l'origine de ce phénomène à l'abandon des valeurs civiques et morales, autant par les responsables que la population. Adama Zantigui Traoré, commissaire permanent du Bureau fédéral des pionniers du Mali.
L'incivisme, c'est les deux côtés. Le citoyen lambda qui n'accepte pas une loi. Et les autorités qui sont là pour faire appliquer la loi ne l'appliquent pas dans la famille. L'enfant n'est pas discipliné pour appliquer un certain comportement. Est-ce pourra-t-il le faire dans la rue?
Pour inverser la tendance, le retour à nos coutumes s'avère nécessaire, poursuit le commissaire des pionniers du Mali.
Tant que le citoyen ne connaît pas les lois qui régissent le pays, il ignore les us et les coutumes de son milieu. Il est très difficile d'être un bon citoyen.
De nombreux citoyens interrogés sur la question, les Malikourois tant attendus, s'y réalisera difficilement sans une prise de conscience.
Dans l'actualité sportive du jour, nous allons parler de la qualification des Aigles du Mali en quart de finale de l'Afro Basket Féminin Cameroun 2021 et des succès à l'extérieur en football du club Benga FC et le stade malien en compétition africaine. Le résumé de ces rencontres avec Mariam Maïga.
Le Mali s'est qualifié dans la douleur pour les quarts de finale de l'Afro-Basket Cameroun 2021 ce matin. Après avoir gagné le premier carton 24-20, les Maliens ont perdu le second et le troisième carton devant des Ivoiriennes très inspirées. Il a fallu attendre le dernier carton pour que les Maliennes prennent leur envol. Score final 76-63. Avant cette confrontation, le Mali avait réussi son entrée dans la compétition face à la Tunisie, battue 101-39. En football, malgré un voyage dans des conditions difficiles et déplorables, l'équipe de deuxième division Binga FC a battu à Monrovia les Libériens du MC Brewiris en Coupe de la Confédération africaine de football. Le rêve continue donc pour le Binga qui a parcouru dans des bus plus de 1000 km pour arriver au Libéria. Les joueurs et le staff ont quitté Bamako mercredi et sont arrivés à destination samedi, soit quelques heures avant le match. En Ligue des Champions, le stade malien de Bamako a battu l'AS Sonabel du Burkina Faso par 3-0. Les deux clubs maliens sont donc qualifiés pour le second tour.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, des présumés djihadistes continuent d'imposer la charia aux populations dans plusieurs localités du cercle de Yuwaru, selon des habitants des communes de Deboy, Dirma et Dongo. Tous subissent les exactions des terroristes. En plus de l'interdiction de fumer la cigarette ou le tabac, il est aussi interdit aux jeunes de jouer au football et de regarder la télévision. Le grand dialogue, c'est dans quelques minutes. Bonsoir à Sekou Gadjigo.
Monsieur Toukante, bonsoir.
Ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le débat?
C'est le sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours au Mali. C'est révélation de l'agence britannique Reuters sur de possibles discussions entre le Mali et la société privée de sécurité russe Wagner. Alors, à quoi peut-on s'attendre? C'est le thème de notre débat de ce soir. Pour en parler, nous recevons Pape Diallo de Yerewolo Debout sur les remparts, Ibrahima Kebe de l'association Fassou Kanou qui interviendra au téléphone, et Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études stratégiques, spécialiste des questions sécuritaires.
Merci et très bon débat. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au 3 www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute dans quelques minutes, le magazine. Aux premières heures de l'indépendance, les nouveaux dirigeants du Mali ont adopté une politique dans le domaine du sport, notamment le football. Il s'agissait de développer la pratique de cette discipline et de bien défendre les couleurs du Mali dans les compétitions internationales, expliquent des anciens joueurs et journalistes sportifs. Selon eux, malgré le manque de moyens, les footballeurs maliens ont honoré le pays sur le continent. Le reportage de Ousmane Alibouli est réalisé dans le cadre de notre série de productions sur le 22 septembre.
Au lendemain de la proclamation de l'indépendance, les autorités ont procédé à des réformes dans le domaine du football, notamment la fusion des clubs. Ces réformes, selon les journalistes à la retraite Mamadou Diarra, ont donné des résultats satisfaisants.
Les pertes de l'indépendance ont obligé les clubs à fusionner pour créer des structures assez fortes. Tous les clubs du Mali participaient à ce qu'on appelle la Coupe du Mali. Elle était l'épreuve reine, tout le monde était impliqué là-dedans. La preuve, en 62, ouais, 62 ou 63, je ne me rappelle pas tellement. Le Sony de est arrivé en finale contre le Real de Bamako. Donc vous comprenez que cette politique à l'époque, elle était volontariste, d'accord, mais elle tenait le bon bout parce que les clubs sont allés deux fois en finale, le Stade par exemple en 65 et le Real en 66. En finale, la Coupe d'Afrique des clubs champions.
Kidjan Diallo fait partie des premières générations qui ont donné au football malien ses lettres de noblesse. Ex-joueur du Djoliba AC et de l'équipe nationale, il doit son ascension, selon lui, à la politique adoptée par les autorités de l'époque. Une politique basée sur la détection des talents.
C'est un responsable du Real, Domodo Koulibaly, qui m'a retenu pour jouer avec l'équipe nationale. Et l'entraîneur de l'équipe nationale de football était au Marseille, dans le Marseille, du stade malien. Donc, c'était des gens qui ne voyaient que le talent du football. On est un joueur, vous jouez bien, on vous prend.
Pourtant, l'ex-international Moké Diané se souvient de certaines tares chez les dirigeants du football malien de l'époque, notamment dans les années 70. Il affirme que les joueurs de cette époque étaient engagés, mais n'étaient pas dans les conditions.
Nous, on jouait pour le Mali, pour l'honneur du Mali. On n'avait pas un franc, on ne donnait pas de l'argent, rien. Après les matchs, c'est 1000 francs. Au Djoliba, c'est 1000 francs, 1500 francs. Bon, mais avec tout ça, on jouait comme s'il n'y a rien. Vous voyez, c'est difficile à dire quoi. Souvent, quand on prend l'avion ici à Bamako, pour aller jouer à Abidjan. Au retour à l'aéroport qu'on voit certains dirigeants.
Selon le journaliste retraité Mamadou Diarra, c'est après la CAN Yaoundé 72 que les performances du football malien ont diminué. Une CAN dont le Mali a perdu la finale.
Le Mali même est allé en finale des premiers Jeux africains de Brazza en 65. Et quelques années plus tard, on a fait Yaoundé et on a été vice-champion d'Afrique en 72. Mais la cassure a eu lieu après Yaoundé, quand la première génération là s'en est allée.
Le football a complètement changé de cette époque à ces jours, affirment ces anciens joueurs. En attendant, beaucoup d'entre eux qui sont en vie sont dans l'oubli total, disent-ils.